Et bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Jusqu'à 9h, l'info en direct sur Europe 1. Bienvenue à tous.
Il est 7h.
Ça serait certainement préférable que l'ensemble de la population prenne l'habitude de porter un masque dans les milieux fermés. À la rentrée, ça sera probablement un impératif.
Porter un masque, respecter la distanciation sociale, des habitudes qui se perdent. Le Conseil scientifique s'inquiète d'une reprise de l'épidémie dès cet été. Le premier flic de France à la rencontre des syndicats de policiers, plutôt séduit de prime abord, ils attendent maintenant des actes. 6000 personnes habillées de blanc pour rendre hommage au conducteur de bus roué de coups à Bayonne. Sa femme était en tête du cortège.
Je veux me battre, je suis jusqu'au bout. J'ai la force en moi, j'ai presque plus de larmes. J'ai pas peur, la justice va être avec moi. Faut plus que ça se reproduise, on peut pas arracher la vie à quelqu'un comme ça.
Dans ce journal, le projet qui hérisse les riverains de la gare du Nord, un énorme centre commercial avec 20 000 mètres carrés de boutiques et de restaurants. La mairie de Paris est également opposée à ce projet.
C'est vraiment un projet qui est en fait un projet de densification commerciale énorme, qui a vocation à faire les poches des voyageurs.
Et puis le monde du rugby recrute 1300 apprentis, des jeunes de tout niveau en vue de la Coupe du Monde de 2023. Votre invité à 7h40, Pierre.
Le lieutenant-colonel Maddy Scherer, elle est porte-parole de la gendarmerie nationale pour l'hommage à Mélanie Lemay, cette gendarme de 25 ans tuée par un chauffard.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Pierre de Villeneuve, Hélène Zélani.
Bas les masques, plus le temps passe, plus le soleil brille, moins on respecte les gestes barrières et la distanciation sociale. Ce constat, c'est celui du Conseil scientifique, de plus en plus inquiet sur une éventuelle reprise de l'épidémie. Dès cet été, il faut dire que ces jours-ci, on en est à 500 cas diagnostiqués chaque jour. Virginie Salmen.
Au bureau, dans les magasins, maintenant on le sait, c'est dans les espaces clos que le risque de contamination est le plus grand. Le professeur Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique, explique ce mécanisme.
C'est de la physique de base. Au bout du compte. Ces micro-gouttelettes, elles ont la capacité, comme elles sont très légères et très fines, de rester en suspension longtemps dans l'atmosphère. Et si vous n'avez pas de phénomène de courant d'air et que vous avez des personnes infectées, elles vont progressivement enrichir cet espace confiné et augmenter le risque de contamination des personnes qui vont fréquenter cet espace.
À ce rythme-là, l'épidémie peut reprendre, même dès cet été, pendant les vacances, prévient Franck Chauvin, professeur de santé publique.
Est-ce qu'on peut passer l'été comme ça? C'est probablement dangereux. Ça serait certainement préférable que l'ensemble de la population prenne l'habitude de porter un masque dans les milieux fermés. À la rentrée, ça sera probablement un impératif que de se protéger par un port du masque beaucoup plus généralisé qu'il ne l'est actuellement.
Les membres du Conseil scientifique le martèlent, le port du masque est pour l'instant la seule mesure connue réellement efficace pour se prémunir des gouttelettes contaminées.
Et en Mayenne, un plan de dépistage massif sera lancé la semaine prochaine. 6 foyers de contamination ont été découverts. Dépistage sur la base du volontariat qui devrait concerner environ 300 000 personnes. On vient de l'apprendre, une avancée au Ségur de la Santé. Il s'agit d'un projet d'accord sur au moins 180 euros mensuels nets de plus pour les soignants.
Oui, alors que justement la demande était de 300 euros par mois. Vous le savez, le gouvernement a mis 1 milliard sur la table. Les soignants ont répondu qu'il fallait 12 milliards au total. Voilà donc une première avancée, en effet, dans ce Ségur de la Santé. Le nouveau gouvernement est à pied d'œuvre. Gérald Darmanin recevait hier pour la première fois les syndicats de policiers. Place Beauvau.
Un syndicat qui réclamait la tête de son prédécesseur au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors comment s'est passée la prise de contact? Plutôt bien, selon Patrice Ribeiro du syndicat Synergie Officier.
C'est plutôt un échange qui est pragmatique, un échange dont on a besoin parce que dans la police, on a besoin d'affect pour pouvoir travailler et on a besoin d'avoir un chef. Donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous tient un discours de vérité. On le jugera à l'aune de ses actes lorsque se présenteront des difficultés. Il ne manquera pas de s'en présenter. Mais en tout état de cause, pour l'instant, il a été plutôt dans l'humidité et dans le pragmatisme. Sur le style, il est plutôt franc. Il peut nous rappeler certains de ses prédécesseurs qu'un destin présidentiel. Et en tout état de cause, c'est quelqu'un qui, à notre avis, a compris, qui a bien été conseillé et qui a compris les arcanes de la maison, la mentalité de la maison et la manière dont on traitait les policiers. Donc sans démagogie, il ne s'agit pas de couvrir ce qui ne doit pas être fait. Il sera intransigeant, je pense, sur toutes les dérives et ça c'est normal. Mais il se présente aussi comme le défenseur des policiers, y compris et surtout dans le quotidien. Mais il n'y a pas de grande déclaration grandiloquente. On est vraiment, pour l'instant, dans le prosaïque et dans le pragmatisme.
Patrice Ribeiro, le dirigeant du syndicat Synergie Officier au micro européen de Salomé Le Grand.
Et après ce rendez-vous, Gérald Darmanin a visité deux commissariats parisiens et ce matin, il se rendra en Gironde, à Mérignac, pour assister à l'hommage militaire rendu à la femme gendarme tuée par un chauffard le week-end dernier. Hommage dont nous parlera le lieutenant-colonel Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie nationale. Ça sera tout à l'heure à 7h40.
Quant à Jean Castex, il visitait hier le tribunal de Bobigny avec le nouveau garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le Premier ministre a promis d'augmenter les moyens de la justice à partir de l'an prochain. Aujourd'hui, il entame une série de réunions avec les partenaires sociaux pour évoquer deux dossiers sensibles, réforme des retraites et de l'assurance chômage.
Les moyens de la justice qui sont scrutés par celui qui est désormais également le ministre des Comptes publics, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, notre invité tout à l'heure à 8h15. Et on le voit, le gouvernement est entré dans l'action comme le souhaitait Emmanuel Macron.
Et oui, sauf que 3 jours après leur nomination, ce n'est pas si évident pour les ministres de se mettre aussi vite au travail et parfois pour des raisons très terre à terre. Adrien Beck.
Depuis 48 heures, on avance un peu en boitant. Arrivée difficile dans son nouveau ministère pour se conseiller, ni ordinateur, ni internet, ni badge d'accès et l'obligation d'être opérationnel tout de suite. Les ministres occupent déjà le terrain tout en composant en coulisses leur garde rapprochée, leur cabinet. Pour l'instant, par exemple, Gérald Darmanin a conservé à l'intérieur son équipe de Bercy qui travaille avec l'équipe Castaner. L'ancienne députée Brigitte Bourguignon est arrivée au ministère de la Santé avec ses collaborateurs du Parlement, aidée par les conseillers d'Olivier Véran. Plus épineux, les tout nouveaux ministères où aucune équipe n'était en place, comme la citoyenneté de Marlène Schiappa. Je ne suis même pas sûr qu'elle sache ce qu'elle doit faire, souffle un conseiller ministériel. La nouvelle ministre devra aussi mettre la main sur une administration qui donne du poids politique. Même chose pour la ministre de la Mer. Récupérera-t-elle par exemple le secteur de la pêche, géré jusqu'ici à l'agriculture? Autant de travail en coulisses avant de connaître le cap du gouvernement donné la semaine prochaine par Emmanuel Macron et Jean Castex.
Adrien Beck.
Il est 7h06. C'est un fait divers qui émeut toute la France. La très violente agression d'un chauffeur de bus à Bayonne le week-end dernier. Il est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital.
Et hier soir à Bayonne, une marche blanche a rassemblé quelques 6000 personnes pour lui rendre hommage, avec en tête de cortège sa femme et ses 3 filles. Elle était suivie par Stéphane Place.
Les applaudissements de 6000 personnes, toutes vêtues de blanc. Certaines ont une fleur à la main et d'autres des larmes dans les yeux.
C'est même pas la colère, là j'ai la haine. S'ils mettent pas les choses en place, ça se reproduira.
Pour moi, ma présence, elle était importante ici. Il faut quand même montrer notre soutien, c'est inadmissible.
Des habitants de l'agglomération bayonnaise, des collègues aussi du conducteur de bus agressé qui se retrouvent devant l'arrêt Balichon, où Philippe Monguillot a été roué de coups dimanche dernier.
Ça va être compliqué. La reprise du volant, passer ici devant, ben, la peur au ventre. On attend qu'on fasse quelque chose pour nous.
Entourée de ses 3 filles, Véronique, l'épouse du chauffeur de bus agressé, brandit un portrait de son mari et prend la tête du cortège.
Je veux me battre jusqu'au bout. J'ai la force en moi, j'ai presque plus de larmes. J'ai pas peur, la justice va être avec moi. Faut plus que ça se reproduise, c'est pas possible. On peut pas arracher la vie à quelqu'un comme ça. C'est lâche, je suis furieuse aujourd'hui. Stop, un an de la retraite. On s'en va pas. À un an de la retraite, on quitte pas sa femme, on quitte pas ses enfants, on quitte pas ses amis.
Émotion et solidarité tout au long de ces 2 kilomètres qui ont conduit la marche blanche jusqu'au centre hospitalier où le chauffeur de bus a été pris en charge en état de mort cérébrale. Bayonne, Stéphane Place, Europe 1.
Et au même moment, dans plusieurs villes, une minute d'arrêt des transports en commun a été respectée pour rendre hommage à ce chauffeur, notamment à Bordeaux, Rennes ou Strasbourg. 2 suspects sont mis en examen pour tentative d'homicide volontaire, 2 autres pour non-assistance à personne en danger. Et puis, c'est aujourd'hui que les experts vont rendre leur avis sur la restauration de Notre-Dame de Paris. La flèche devrait être reconstruite à l'identique.
Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Pierre et Vacances renonce à son grand projet de Center Parcs à Roibon dans l'Isère. Autre projet très contesté, la transformation de la gare du Nord avec un énorme centre commercial à Paris. On en parle dans la suite du journal. À tout de suite.
Il est 7h10, la suite du journal. Hélène Zélani, Pierre de Villeneuve.
Il aura fallu 13 ans de bataille pour les défenseurs de l'environnement, mais ils ont gagné la partie. Le groupe Pierre et Vacances abandonne son projet de Center Parcs à Roibon en Isère.
Près de 400 millions d'euros pour construire environ 1 millier de petites maisons, de commerces et de restaurants autour d'un parc aquatique. Des zadistes occupaient le terrain depuis 2014.
Autre projet qui est très très loin de faire l'unanimité, la rénovation de la gare du Nord à Paris, la première d'Europe âgée de 155 ans tout de même.
Oui, un gigantesque centre commercial doit être construit d'ici les Jeux Olympiques de 2024. Le permis vient d'être délivré, les travaux doivent commencer cet été, mais la mairie ne l'entend pas de cette oreille. Hostilité aussi des habitants et des commerçants du quartier. Voilà qui mérite qu'on se penche sur la question avec vous, Pierre Herbulot. D'abord, sur le papier, quel est l'esprit du projet ?
L'idée générale, c'est de moderniser la gare du Nord, la première d'Europe en nombre de voyageurs, 700 000 par jour du métro à l'Eurostar. Ça passe par un coup de neuf, mais surtout par un agrandissement, et là c'est un euphémisme, la surface va pratiquement doubler. Plusieurs étages seront construits avec 20 000 mètres carrés de boutiques, de restaurants et de bureaux.
Il y aura donc un centre commercial dans la gare. Pierre, en quoi ça pose problème ?
En fait, un peu à la manière d'un aéroport, il faudra traverser cet espace shopping pour aller prendre le train. La filiale d'Auchan qui finance le projet tempère. L'accès au quai sera, je cite, amélioré. Ils sont à côté de la plaque pour Serge Rémy, à la tête d'un collectif d'habitants du quartier.
Irez-vous acheter votre pain, votre baguette tradition dans la gare avant de rentrer chez vous ? Quelque chose ne convient pas. L'aspiration des habitantes et des habitants, c'est d'avoir un commerce de proximité, convivial, qu'on développe et qui permet de recréer du lien et non pas forcément du bien en permanence.
La ville de Paris aussi s'oppose à cette future gare du Nord. Pour la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, c'est tout sauf une histoire de modernisation.
C'est vraiment un projet qui est en fait un projet de densification commerciale énorme, qui a vocation à faire les poches des voyageurs, qu'ils soient d'ailleurs du quotidien ou internationaux. Et qui, en fait, ne corrige mais à peine à la marge les conditions de transport des voyageurs du quotidien, des 70% des 750 000 personnes qui empruntent la gare du Nord tous les jours.
Alors que les premières pelleteuses sont attendues cet été, la SNCF qui économise 600 millions d'euros dans l'affaire reste muette. La ville de Paris se dit, elle, en ordre de bataille juridique, alors que certains habitants n'excluent pas des actions de désobéissance civile pour ralentir les travaux.
Éclairage signé Pierre Herbulot.
Et pour ceux qui prennent plus tôt la voiture, vous avez peut-être constaté qu'il y avait foule dans les garages.
Ah oui, c'est en effet un des rares secteurs à être désormais au-dessus de son niveau d'activité d'avant-crise. Les garagistes ne chôment pas, d'ailleurs, comme l'a constaté Élise Dangean à Athis-Mons, dans l'Essonne.
Bruno Attis National, bonjour.
Dans le garage de Nicolas Yilmaz, on s'affaire autant à l'accueil que dans l'atelier.
13h30, 14h.
Une cadence infernale qui dure depuis maintenant 2 mois, raconte le patron.
Le mois de mai et le mois de juin, ça a été 2 heures sup par jour à peu près. Mes gars, ils n'ont pas pris de pause le midi. Voilà. Pour absorber.
Car tous les clients qui avaient déserté le garage pourtant ouvert pendant le confinement sont revenus en masse.
On a les départs en vacances, les gens qui n'ont pas pu faire leurs réparations pendant le confinement, les véhicules qui ont souffert du confinement 3 mois comme ça à l'arrêt. En fait, il y a eu plein de pannes liées à ça, notamment beaucoup de problèmes de batterie. On a résolu beaucoup de soucis de batterie. Donc en fait, niveau automobile, on est servi. Quoi.
En juin, le garage a presque doublé son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Si la tendance se confirme, il devrait embaucher de nouveaux salariés. Objectif, éviter des retards et des clients mécontents.
Élise Dangean qui a enfilé sa tenue de travail également au chapitre des nouvelles plutôt positives.
C'est la fête de garagiste, je
voilà,
voulais dire.
C'est ça. Également au chapitre des nouvelles plutôt positives sur le plan économique. 3 repreneurs pour l'enseigne de prêt-à-porter La Halle, placée en redressement judiciaire début juin. 60% du personnel va pouvoir garder son emploi, soit 3334 postes.
Et à propos d'embauche, eh bien, en cette période de crise, coup de chapeau à la Fédération française de rugby qui va recruter de jeunes apprentis dans toute la France. Simon Rubin.
Travailler dans le marketing sportif, la communication autour de la Coupe du Monde ou bien être envoyé au sein d'un club amateur pour s'occuper des subventions, de la gestion des infrastructures ou des bénévoles, voilà quelques-uns des apprentissages proposés et financés par le comité d'organisation. Au total, 1300 offres de ce type sont proposées partout en France. Aucun niveau d'études requis, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans pour être éligible. Claude Haché, le patron du comité d'organisation du Mondial de rugby.
N'oublions pas que pendant le Covid, 42,5% des jeunes ont perdu leur cursus formation. Si aujourd'hui, nous, événements sportifs nationaux, on n'est pas capable d'apporter à ces jeunes une forme de proposition et d'espoir, je pense qu'on ne répond pas à la question de la raison d'être de l'organisation d'un événement sportif.
Et on parle bien ici d'apprentissage. Cela veut dire qu'en plus d'avoir un métier, chaque jeune sera accompagné, formé académiquement et aura un diplôme à l'issue de ce cursus de 3 ans, encadré par les centres de formation des apprentis. À terme, l'organisation du Mondial de rugby prévoit d'embaucher 2023 apprentis.
Et justement, rendez-vous sur le site 2023 Apprenti Info pour tous ceux qui veulent postuler.
Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zélani.
Europe 1. À suivre les innovations chirurgicales à la Pitié-Salpêtrière, votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Mais avant l'édito éco avec Carole Ferry, la montée en puissance du boycott publicitaire de Facebook. En écho aux récentes manifestations aux États-Unis, est-ce que c'est un danger pour le modèle économique du réseau? À tout de suite.